Les attentes des professionnels de santé, le Gallieni de la santé s'ouvre mercredi. Ils attendent une refonte totale du système. Les cagnottes en ligne pour une bonne cause. La Calédonie n'échappe pas à ses appels à la générosité en ligne. Attendu dès ce week-end, cessez-le-feu repoussé au Moyen-Orient. Donald Trump demande à ses équipes de négociateurs de ne pas se précipiter alors qu'un accord semble proche. Gérald Darmanin veut mettre fin à l'immigration telle qu'elle est aujourd'hui et propose de suspendre pendant 3 ans les entrées légales. Le ministre de la Justice a accordé une longue interview au JDD. En sport, hécatombe française à Roland-Garros. Sur les 12 tricolores en lice cette nuit au premier tour, seuls 2 se sont qualifiés. Et puis en Formule 1, 4e victoire consécutive pour Kimi Antonelli. Le jeune Italien s'est imposé ce matin sur le Grand Prix du Canada. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. C'est aujourd'hui un jour férié puisque c'est le lundi de Pentecôte et l'activité reste au ralenti aujourd'hui. La semaine de 4 jours qui débutera demain sera marquée notamment par le Gallieni de la santé organisé par le gouvernement. À partir de mercredi, il organise cette conférence, rendez-vous qui avait été programmé à la suite des mouvements sociaux aux urgences du CHT en début d'année. Depuis, plusieurs réunions ont eu lieu pour définir les contours de cette conférence Gallieni et il y a une forte attente des professionnels de santé, Nicolas Legrand.
Oui, le constat est partagé. La Nouvelle-Calédonie traverse une crise profonde de son système de santé. Manque d'attractivité en raison des conditions d'exercice, mais aussi de l'insécurité, protection sociale extrêmement fragilisée et des inégalités d'accès aux soins pour les populations. C'est donc un chantier très important qu'il va s'ouvrir. Durant 3 jours, les soignants seront réunis à l'initiative du gouvernement pour travailler en atelier et en séance plénière autour de 3 axes. L'attractivité et les conditions d'exercice, la gestion des besoins en soins et la soutenabilité du système. L'objectif affiché par le 18e gouvernement est clair, bâtir ensemble les fondations d'un système de santé durable, attractif et équitable pour tous les Calédoniens. C'est donc une démarche participative initiée par les membres du gouvernement, Claude Gambet en charge de la santé, Christopher Gigès pour le budget et Naya Wateu chargée de la fonction publique. Et les professionnels de santé, vous le disiez, attendent beaucoup de ce rendez-vous. À l'image de François Delbois, il est le président de l'Opus, l'organisation des professionnels et usagers du système de santé.
C'est un rendez-vous important hein, parce que le système de santé ne pourra pas être sauvé uniquement par des économies ou des réformes administratives. Il faut réorganiser complètement le parcours de soins autour des besoins réels de la population. Il faut renforcer les soins de proximité, mieux coordonner les acteurs, l'autonomie des professionnels de santé. Enfin, tout ça fait partie des mesures qui sont préconisées. De nombreuses de nos propositions font partie des sujets des ateliers. Donc ce qu'on attend très fortement, c'est une décision politique. On parle d'avenir, en fait, dans ces conférences Gallieni. Et à un horizon de 3 à 5 ans, il est extrêmement compromis. Donc les décisions politiques qui vont être prises à la suite de ce Gallieni vont être capitales.
L'organisation des professionnels et usagers du système de santé a donc fait des propositions pour réformer totalement le système et le rendre soutenable. François Delbois, le président de l'Opus, espère maintenant que les professionnels seront réellement pris en compte dans cette démarche participative.
On a des solutions d'économie de santé à hauteur de 20 à 25 milliards par an. Il s'agit évidemment de mesures qui ont été étudiées, qui sont pratico-pratiques. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans un horizon de 1 à 3 ans. Et c'est vrai qu'il y a une énorme attente de ce côté-là. L'ensemble des professionnels de la santé ne comprendrait pas que l'on ne puisse pas mettre en place un certain nombre de mesures. Nous attendons qu'à la fin de ce Gallieni de la santé, il y ait non seulement les mesures que le gouvernement a déjà dans sa sacoche, il paraît qu'il y en a une douzaine, mais il faut une planification. Je dirais à la tête de cette planification, un architecte qui ait la vision globale. On ne peut plus maintenant piloter simplement avec des petites variables d'ajustement, des réformes administratives, des économies budgétaires marginales. Il faut vraiment réorganiser la totalité du système.
Et cette conférence Gallieni de la santé débutera donc mercredi après-midi et se terminera vendredi. Et à l'issue, le gouvernement s'est engagé à présenter un plan d'action avec les mesures issues des ateliers qui auront été retenues.
Elles fleurissent sur les réseaux sociaux, notamment en Nouvelle-Calédonie. Les cagnottes en ligne sont devenues pour beaucoup un dernier recours et c'est vrai notamment face à l'urgence, Léo Fichou.
Oui, ces derniers mois, les appels aux dons se multiplient, portés par des familles ou bien des associations. C'est le cas notamment de cette cagnotte lancée pour venir en aide à Darren, un Calédonien de 26 ans qui vit en métropole depuis 2 ans déjà. Hospitalisé à Angers, il attend de recevoir une greffe de moelle osseuse. Sa famille cherche donc à financer les soins, les déplacements médicaux et tout ce que la maladie entraîne. Sa maman, Lorraine, témoigne.
Quand on a eu l'assistante sociale de l'hôpital, elle nous disait que tous les frais, ça sera à notre charge. Comme Darren, il est à l'hôpital et puis que il n'a pas de couverture sociale. Et du coup, il faudrait qu'on avance tous les frais d'hôpital et de médicaments, tout ce qui va faire soit d'arène. Et nous, comme on n'a pas les moyens, c'est compliqué depuis les émeutes. Mes copines, elles m'ont proposé de lancer une cagnotte en ligne.
Vous avez fait les tests pour savoir si vous pouviez être donneur dans la famille. Vous avez eu un retour déjà ou pas encore?
On est encore en attente de savoir si quelqu'un est compatible ou pas. Parce que nous, on se dit que s'il y a un de mes enfants qui est compatible et que aller en métropole, ben, comme ça, on aura déjà l'argent pour le billet, l'argent pour déjà régler ce qu'on devra régler à l'hôpital, parce que pour l'instant, on n'a pas de facture, on ne sait pas encore à combien de montant il va s'élever.
La cagnotte pour aider Darren est sur le site litchi.com sous le nom Aidons Darren à recevoir sa greffe de moelle osseuse. En quelques clics, chacun peut donner 500 francs, 1000 francs ou bien plus et relayer aussi l'information autour de lui. Ce type de mobilisation n'est pas isolé. Aujourd'hui, les cagnottes en ligne servent aussi à financer des reconstructions, par exemple. C'est le cas du Faré du lycée d'Okamo, incendié en juillet 2025. Daniel Collet est le documentaliste du lycée.
C'était un choc pour nous, à la fois un côté très pratique évidemment et symbolique, donc ce grand Faré central. Le 29 novembre, on a fait une grande journée pour mobiliser de l'argent, pour essayer de reconstruire ce Faré. Et donc on a mis aussi en ligne une cagnotte. On a eu beaucoup de demandes de personnes qui n'étaient pas surnoméas, qui ne pouvaient pas venir à la journée. Et ils nous demandaient comment ils pouvaient participer, des gens qui étaient en France ou bien dans les îles ou dans le nord ou ailleurs, quoi. Et c'est pour ça qu'on a mis cette cagnotte en ligne, de manière à ce que tous ceux qui voulaient participer, tous ceux qui voulaient contribuer, puissent le faire de là où ils se trouvent. Puis c'est quelque chose qui peut durer sur plusieurs mois, hein, c'est-à-dire qu'encore maintenant, on peut toujours participer.
La cagnotte pour reconstruire le Faré du lycée d'Okamo est aussi accessible sur le site litchi.com. Mais derrière ces élans de solidarité, une question revient souvent. Peut-on vraiment faire confiance à toutes les cagnottes en ligne? Car si certaines, comme celle dont je viens de vous parler, permettent d'aider concrètement, d'autres suscitent parfois des doutes. Laurent Rivaton est le président de la commission cybersécurité du cluster OpenNC. Il appelle à la vigilance.
La cagnotte en ligne, c'est un motif d'arnaque, hein, comme pour d'autres choses. Donc oui, il faut être vigilant. Les grandes règles, les grands principes, la petite checklist à se faire, c'est vérifier que le lien qu'on vous propose, il est fiable. Hein. Est-ce que l'URL est correct? Est-ce qu'il n'y a pas des fautes, des caractères qui sont inversés, des choses comme ça? Est-ce que le site, il est connu? Le site qui va permettre de collecter l'argent? Après, est-ce que l'organisateur, il est identifiable? Est-ce que c'est quelqu'un ou une organisation qui est connue, avec un profil qui est crédible? Évidemment, si l'organisateur, vous allez sur les comptes, sur les réseaux sociaux et qu'on voit que c'est des profils vides qui viennent d'être créés, ça peut être suspect en tout cas. L'histoire qui est racontée et qui est le motif de la collecte, est-ce qu'elle tient la route? Est-ce qu'il y a des détails concrets? Est-ce qu'évidemment, si c'est juste vite, donnez-moi de l'argent, il faut peut-être se méfier. Est-ce que les moyens de paiement qui sont proposés, ils sont sécurisés? Et donc, il faut appliquer la règle de base qui est toujours réfléchir un petit peu avant de cliquer, surtout quand il s'agit de donner de l'argent.
Les cagnottes en ligne, un outil donc de solidarité rapide et efficace, à condition toutefois de vérifier à qui l'on donne.
En bref, une information pratique pour les déclarations de revenus 2025. Attention, si vous habitez hors de Nouméa et que vous avez opté pour la télédéclaration, vous avez jusqu'à demain soir minuit pour la transmettre aux services fiscaux. Et puis notez que le C24 est réuni au Nicaragua. Pendant 3 jours, des délégations de 17 territoires, dont la Nouvelle-Calédonie, seront présents à Managua. D'après nos informations, Alcide Monga, le président du Rassemblement, et Marie-Laure Ukéoué des Loyalistes, représentent les partisans de la France. Il est 12h. Et bientôt 10 minutes, une première pause avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda.
Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal d'actualité à l'étranger avec Jean-François Baudin.
Un espoir d'une pause, voire d'un début de fin de conflit au Moyen-Orient. On a cru, en raison des déclarations optimistes du secrétaire d'État américain, qu'un accord était sur le point d'être signé entre les Américains et l'Iran, alors que les discussions se sont intensifiées sous l'égide du médiateur pakistanais. Mais finalement, Donald Trump a demandé à ses représentants de ne pas se précipiter. Ce qui est en cours dans ces discussions, c'est un cessez-le-feu de 60 jours, mais aussi la réouverture du détroit d'Ormuz. Un accord à minima, selon Patrice Martin-Jeunier, professeur à Sciences Po.
Ce serait quelque chose à court terme, à minima, sachant que tout le monde le demande dans cette région, qu'il s'agisse de l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Oman, le Qatar, même la Turquie. Donc cela irait dans le sens de ce qui est demandé unanimement, et également des perspectives de négociation qui pourraient reprendre, le cas échéant, au Pakistan.
Washington se dit prêt à lever les sanctions économiques contre Téhéran, notamment le gel des avoirs iraniens pendant le temps de la négociation. En revanche, la question du nucléaire iranien fait l'objet de discussions en parallèle. Les États-Unis réclament toujours le démantèlement des capacités nucléaires iraniennes, mais rien n'est fait. Et c'est l'un des points qui inquiète Israël, partenaire des Américains dans cette guerre contre l'Iran. Tel Aviv estime en effet que le projet d'accord en cours de discussion ne tient pas compte des exigences israéliennes. Frédéric Simon pour Europe 1.
Pour plusieurs raisons, la première, la plus importante du point de vue israélien, eh bien, c'est l'incertitude concernant le nucléaire. Benjamin Netanyahu a affirmé que Donald Trump lui avait assuré que le programme nucléaire de l'Iran sera démantelé, mais il semblerait qu'à ce stade, en tout cas, l'accord n'oblige pas l'Iran à céder sur les quelques 440 kilos d'uranium enrichi dont il dispose. Cette question, ainsi que les autres aspects du programme nucléaire, devraient faire l'objet de négociations ultérieures dès que le détroit d'Ormuz sera rouvert. Autre motif d'inquiétude pour Israël, la levée partielle des sanctions économiques qui pèsent sur l'Iran et notamment l'autorisation qui pourrait lui être accordée d'exporter à nouveau du pétrole, de quoi renforcer le régime des Mollahs et lui permettre tout à la fois de financer la reconstitution de son arsenal de missiles et de renforcer les milices chiites qui lui sont affiliées dans la région. Des perspectives d'autant plus préoccupantes pour Israël que selon plusieurs sources, aucune des clauses de l'accord ne serait explicite concernant le programme balistique de l'Iran et le soutien côté Iran fourni aux groupes armés terroristes au Yémen, en Irak ou encore au Liban. On ne sait d'ailleurs pas à l'heure qu'il est si l'accord impliquera la fin des hostilités entre Israël et le Hezbollah ou si, comme l'assure Benjamin Netanyahou, l'armée israélienne continuera d'avoir les mains libres contre la milice pro-iranienne.
Frédéric Simon, le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. L'actualité à l'étranger, c'est aussi cet homme abattu par les forces spéciales américaines aux abords de la Maison-Blanche à Washington. Il s'est approché d'un poste de sécurité et a ouvert le feu avant d'être touché par des tirs de riposte. Il est décédé à l'hôpital. Cet homme présentant des troubles mentaux était connu des services de sécurité. En métropole, Gérald Darmanin pose ses jalons. Le ministre de la Justice se dévoile dans les colonnes du JDD, une longue interview dans laquelle il parle des présidentielles de 2027. Mais il partage aussi sa vision de la sécurité, de l'autorité et de la justice et avance une mesure phare. Il veut mettre fin à l'immigration telle qu'elle est aujourd'hui et propose de suspendre pendant 3 ans les entrées légales en métropole. Arthur Delaborde.
3 ans de pause sur l'immigration légale. Gérald Darmanin plaide pour un moratoire. Selon lui, la France est arrivée à la limite de ses capacités d'intégration et d'assimilation. Le garde des Sceaux veut aussi restreindre le regroupement familial pour certains titres de séjour, conditionner les visas à l'acceptation des OQTF par les pays d'origine et instaurer des quotas migratoires contraignants. Pour cela, prévient-il, il faudra changer la Constitution et il veut faire de ce sujet un thème central de la présidentielle. Autre priorité, la protection de l'enfance. Après le scandale du périscolaire, Gérald Darmanin dit avoir adressé cette semaine une nouvelle circulaire au parquet, consigne répondre systématiquement à chaque signalement de maltraitance pour lever le doute. Il annonce aussi des contrôles automatiques des casiers judiciaires des animateurs, davantage d'experts judiciaires et un procureur spécialisé. Enfin, avant 2027, Gérald Darmanin avance ses pions. Il plaide pour une candidature unique du bloc central derrière Édouard Philippe, qu'il juge aujourd'hui le mieux placé, tout en laissant planer le doute sur ses propres ambitions.
La métropole qui connaît une fin de mois de mai caniculaire avec des températures attendues aux alentours de 34 degrés dans plusieurs départements de l'Ouest à partir de demain. La nuit dernière pour nous, un homme est décédé à Paris. Il participait à une course à pied et il a fait un arrêt cardio-respiratoire. Après le siphonnage des réservoirs de poids lourds, un nouveau type de délinquance fait son apparition en métropole, le vol de cuivre. Et les malfaiteurs visent principalement les bornes de recharge pour véhicules électriques. Ce type de vol se multiplie notamment dans le Nord. Le reportage de Maximilien Carlier.
À la tenaille ou à la disqueuse, des câbles de charge pour véhicules électriques coupés, net, des dizaines de bornes vandalisées. Phénomène en plein essor pour Jean-Pierre Cloez du syndicat Alliance Police Nationale dans les Hauts-de-France.
C'est très facile, il sectionne le câble, on peut le transporter facilement. Et de plus, on a des applications mobiles qui géolocalisent ces bornes de recharge. Les voleurs s'en servent évidemment pour les repérer. C'est à la fois un gain de temps et une facilité pour eux.
Les câbles pèsent 5 kilos environ et avec un cours du cuivre qui atteint des sommets, ils sont revendus ensuite 50 euros pièce. Coût du remplacement par le fournisseur, plusieurs milliers d'euros. Les bornes et les watts, par exemple, sont installées et gérées par Total Energy. Xavier Bourra, le directeur régional Hauts-de-France.
C'est un fléau en ce moment, notamment dans la région lilloise, où beaucoup de bornes sont vandalisées pendant la nuit. On est à plus d'une centaine de câbles qui ont été dérobés depuis octobre-novembre l'année dernière.
Plusieurs enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Lille. Des opérateurs ont installé des caméras et gaines protectrices pour dissuader et éviter que ces câbles soient coupés. À Mont-Saint-Barreul, Maximilien Carlier, Europe 1.
Il est midi et 17 minutes. Dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Maman, t'es plutôt dispo vers la fin du mois ?
Ben oui, pourquoi ?
Parce que samedi 30 mai, le centre commercial Hyper U Païta célébrera toutes les mamans avec une journée spéciale fête des mères. Au programme, des animations gratuites avec des portraits BD en live, des massages bien-être, un photobooth et même tout plein d'ateliers enfants pour vous confectionner de super cadeaux.
Et papa pourra aussi me trouver des cadeaux dans toutes les boutiques de la galerie et sur le marché spécial fête des mères qui aura lieu les 23, 24, 30 et 31 mai. Mais c'est génial !
Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook Centre commercial Hyper U Païta.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 16 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atout SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés, faisons-les rêver.
La fête des mères approche. Avec Panier d'essence, trouvez le cadeau parfait. Coffret raffiné, parfum d'exception et soins naturels pour faire plaisir à maman à coup sûr. Panier d'essence, c'est aussi l'univers de la maison, avec bougies et parfums d'ambiance délicats pour des instants cocooning avec maman. Rendez-vous 7 jours sur 7 au complexe La Promenade à Lanzvata et sur panierdessence.nc. Panier d'essence, la beauté naturelle qui sent bon la Provence.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec Jean-François Baudin.
Et on va commencer avec le tennis et le premier tour de Roland-Garros en nocturne sur le court Philippe Châtrier. Giovanni Mpechi-Pericard a gagné le premier set face à Novak Djokovic, mais il a perdu les trois autres. Christopher Filhoc pour Europe 1.
Tout avait parfaitement commencé pour le Français, auteur d'un premier set solide. Giovanni Mpechi-Pericard et son service surpuissant se sont adjugés la première manche 7-5 après 48 minutes de jeu. Mais le Serbe, évidemment, ne l'entendait pas de cette oreille et il a su hausser son niveau de jeu pour revenir à un set partout. Et puis le triple vainqueur à Roland-Garros a déroulé pour prendre les devants. Et une fois le diesel Djokovic lancé, difficile de l'arrêter. Victoire en 4-7, 5-7, 7-5, 6-1, 6-4. On retiendra en tout cas que Giovanni Mpechi-Pericard et le premier Français à prendre un set à Novak Djokovic à Roland-Garros depuis Joe Wilfried Tsonga en quart de finale en 2012. Mais malgré cette défaite, il y a tout de même de quoi se réjouir ce soir. Après la qualification de Quentin Alice, Valentin Royer donne à la France sa deuxième victoire de la journée. Il s'impose en 3-7 face au Bolivien Hugo Delienne, le Francilien qui retrouvera d'ailleurs Novak Djokovic au prochain tour.
Alors côté tricolore, donc qualification de Valentin Royer et de Quentin Alice, on vient de l'entendre. Élimination en revanche, on l'a entendu aussi de Giovanni Mpechi-Pericard, mais aussi de Benjamin Bonzi, de Kerian Jacquet, d'Arthur Géa, le dernier vainqueur du Challenger de Nouméa, Tito Androgué, Lucas Pavlovic et Pierre Hugerbert. Et côté dame, élimination également de Clara Burel, Fiona Ferro et la jeune Xenia Efremova.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
C'est donc la Formule 1 et Kimi Antonelli poursuit sa saison de rêve. Au Canada, le jeune Italien Léo Fichou a remporté son 4e Grand Prix consécutif.
Oui, après la Chine, le Japon et Miami, le pilote Mercedes a donc remporté son 4e succès de la saison sur le circuit Gilles Villeneuve. Il devance Lewis Hamilton sur Ferrari et Max Verstappen sur Red Bull. Charles Leclerc termine 4e, juste devant le premier Français Isaac Hadjar, qui réalise son meilleur résultat de la saison malgré plusieurs pénalités.
Non, les pénalités, avec du recul, je pense que c'est faire. J'étais vraiment pas dedans, j'avais tellement du mal avec la voiture et j'avais pas le feeling que j'avais en sprint, que j'avais en qualif. Donc il va falloir essayer de comprendre pourquoi. On a des réponses pourquoi la voiture elle marche mieux ce week-end. On sait pourquoi et on sait qu'aussi à Monaco, on aura quelque chose pour se battre devant. Donc il n'y a que du positif. Après, on sait que quand on va retourner sur les pistes comme Barcelone, on va souffrir un peu plus. De ce qu'on a compris, donc va falloir essayer d'anticiper.
Isaac Hadjar 5e donc de ce Grand Prix du Canada, Pierre Gasly 8e, Esteban Ocon 14e. Au classement général, Kimi Antonelli profite de l'abandon de George Russell pour s'échapper en tête. Il possède 43 points d'avance sur son coéquipier chez Mercedes. Charles Leclerc est 3e. Côté français, Pierre Gasly 8e, Isaac Hadjar 12e, Esteban Ocon 16e. Prochain rendez-vous, vous l'avez entendu, ce sera le week-end prochain dans les rues de Monaco.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1, parrainée par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2026. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
On va passer maintenant au cyclisme. Michael Juneski, c'était cette nuit la 15e étape du Tour d'Italie. Elle a été remportée par un Norvégien, Fredrik Dverne.
Il faisait partie de l'échappée qui a pris les devants jusqu'à Milan pour s'imposer en solitaire devant les Italiens Mirko Maestri et Martin Marcelluzzi. Au classement général, au lendemain de sa prise de pouvoir, le Danois Jonas Vingegaard a conforté son maillot rose de leader. Il compte désormais au classement général 2 minutes 26 secondes d'avance sur l'ancien leader, le Portugais Afonso Olalio. Ce soir, le peloton sera au repos. Le Giro reprendra demain avec encore 6 étapes à disputer jusqu'au grand final à Rome.
Et puis en bref, on rappellera en rugby cette hégémonie française sur la scène européenne puisque 2 clubs français se sont imposés dans les compétitions européennes. L'Union Bordeaux-Bègles de Yoram Moefana a conservé son titre en Champions Cup en surclassant les Irlandais du Leinster 41-19. De son côté, Montpellier a gagné le challenge européen en s'imposant sur l'Ulster 59-16. Et puis sur les terrains de football, le RC Lens a gagné samedi la Coupe de France pour la première fois de son histoire. Et c'est une victoire sur Nice qui lui a permis d'obtenir ce titre. Victoire 3 buts à 1. On en vient au sport en Calédonie avec du handball et Suzanne Wajoka qui en métropole a décroché avec son club de Metz un nouveau titre en remportant la finale de la Coupe de France féminine.
L'équipe de Metz qui a écrit une nouvelle page de son histoire en s'offrant sa 5e Coupe de France d'affilée. Victoire sur les Dijonnaises sur le score de 33-21. La Calédonienne et les Messines peuvent désormais se tourner sereinement vers le prochain grand objectif du club, le Final Four de la Ligue des Championnes de handball féminin. Suzanne Wajoka fait partie par ailleurs des nominations mais pour le titre LHF de meilleure ailière gauche de la saison 2025-2026 face aux métropolitaines Marine Dupuis et Chiara Chimanga. Les Calédoniens peuvent voter sur le site internet de la Ligue féminine de handball jusqu'au 1er juin prochain. Le vote du public comptera pour 40% des résultats finaux.
Restons en métropole pour parler basket. La JS Dumbéa est sur place pour les phases finales à 6 du championnat de France de National 3.
Et pas d'exploit malheureusement lors du premier match pour le champion de Calédonie en titre qui s'est incliné contre les métropolitains d'Agde Basket sur le score de 74-45. Mais l'AS Dumbéa était encore engagé dans les matchs de classement et a réussi une belle performance en battant l'équipe des Martiniquais du Golden Star, champion des Antilles-Guyane, sur le score serré de 68-63. C'est la première fois qu'une équipe calédonienne a réussi donc à remporter une des rencontres dans le format des finales à 6 du championnat de France N3. Un aboutissement notamment pour la génération dumbéenne qui a conquis 8 titres de champions territoriaux sans jamais l'emporter jusqu'à présent face au club présent pour ce trophée en métropole.
Et puis une toute dernière info sport pour vous signaler que Leslie Novicki a remporté l'Ultra Trail de Nancy, sa ville natale, en 7h46 minutes de course sur un parcours de 76 km avec 2300 mètres de dénivelé positif. Elle a terminé 4e au classement Scratch.